les podcasts d'AFDS.TV, aux frontières des séries. Une émission de Sarah Sepulcre et Alexandre Marlier. Les dossiers d'AFDS.TV, Sarah Sepulcre, Alexandre Marlier.
Au programme de notre dossier du jour, Julie Lescaut. Et oui, tout arrive. Elle est apparue pour la première fois sur TF1 le 9 janvier 1992. Selon les chiffres dévoilés par GMT Productions, la série compte aujourd'hui 52 épisodes, suivis en moyenne par 10 millions de téléspectateurs. Julie Lescaut a d'abord enquêté dans les pages de la collection du Masque avant de passer à la télévision. Le créateur de la série est d'ailleurs l'écrivain qui l'a inventé, Alexis Lecaille. Il n'existe qu'un roman, Julie Lescaut, mais le commissaire est retourné au livre grâce à de novélisation de la série publiée par J'ai lu. Véronique Genest incarne le commissaire Lescaut, Joséphine Serre est Babou, Jennifer Loret joue Sarah et Mousse Diouf donne vie à Ngouma. Tout de suite, on plonge dans l'univers de Julie en compagnie de Sarah.
Bonjour, bonjour à tous. Le commissaire arrive aux Clairières. Les Clairières, c'est un district résidentiel mi-français, mi-immigré. Elle a sous ses ordres 24 policiers en uniforme et 9 inspecteurs, dont le Ngouma, dont tu viens de parler, Mota et Kaplan. Je suis sûre que vous en avez tous entendu parler au moins une fois.
Oui.
Obligé.
Qui n'a jamais vu un épisode de Julie Lescaut ?
Bah pas moi en tout cas. La première affaire est un rapt d'enfant, donc une affaire difficile, surtout pour Julie qui doit prouver qu'elle est capable de faire ce métier et capable de diriger ses hommes. Mais on découvre aussi Sarah et Babou, les deux filles du commissaire, et son ex-mari, Paul. On le comprend dès le début, l'idée de la série, c'est de mélanger vie privée et vie publique et de voir comment une femme se sort dans un milieu d'hommes tout en gérant sa vie de mère. La vie privée de Julie Lescaut est d'ailleurs très présente dans les affaires criminelles et dans les affaires qu'elle gère en général. Par exemple, Sarah a la mauvaise idée d'être la première arrivée sur un lieu du crime. Sarah, c'est donc sa fille. Ou leurs amis, que ce soit les amis des filles ou les amis de Julie, sont pris dans les intrigues. Par exemple, les amis de Julie qui euthanasient leur fils. Ou un ami ou un petit copain de Sarah qui devient vandale. Enfin bref.
Il y a un côté très arabesque et Jessica Fletcher finalement.
Tout
hein,
à fait,
Julie
oui.
Lescaut.
Julie Lescaut est donc la Jessica Fletcher de la télévision française. C'est un concept intéressant, je trouve. Et puis parfois, elles sont carrément celles qui font l'histoire. Donc Julie Lescaut se fait kidnapper ou Sarah qui fait une fugue. Et donc la vie privée a beaucoup à voir avec sa vie professionnelle. Côté privé, donc, elle est divorcée. On lui connaît pas de copain, sauf un ex-petit copain, évidemment, qui est lui lié à une des intrigues. Hein, on revient à cette idée. Et sa vie professionnelle, donc, c'est un patron respecté de ses subordonnés. Mais par contre, ses supérieurs ne lui rendent pas la vie facile. Ils sont toujours pressés. Faut toujours avoir des résultats. Et ils envoient même parfois carrément des espions ou des pseudo-spécialistes, par exemple, du viol ou des stupes, etc. En partant du principe qu'évidemment, les flics de quartier ne savent pas s'en sortir. Les affaires sont en général des homicides. Des homicides qui ont souvent une connotation sociale. C'est un homicide qui a lieu durant une grève, donc on vous parle des milieux des grévistes dans une usine par exemple, ou c'est un jeune assassiné ou un jeune suicidé et on vous parle des problèmes des jeunes. Avec une faiblesse de la série, c'est son côté très moralisateur et parfois très pédagogique. Je me souviens par exemple d'un épisode Destin croisé où Franck, qui est évidemment le petit ami de Sarah, fait un accident de scooter et on a un dialogue entre Sarah ou Babou et Julie qui explique à ses filles qu'elles doivent absolument mettre des casques quand elles vont sur un scooter et elle lui explique pourcentage à l'appui combien de jeunes sont morts sur des scooters. Ça arrive dans tous les épisodes.
Juste après, on a un flash de la sécurité routière.
C'est à peu près ça, oui. Il y a aussi une autre faiblesse de la série, je trouve, ce sont des personnages sans nuance. Les filles sont exemplaires, elles seront exemplaires du début à la fin. Elles sont même exemplaires quand elles font des fugues, puisqu'elles permettent d'aider la fille avec qui elle a fait une fugue, qui était évidemment la criminelle recherchée par sa mère. Les inspecteurs sont tous bons, sont tous gentils, ont tous grand cœur et veulent recueillir les victimes. Julie, elle a toujours le bon mot, le geste qu'il faut, c'est le chevalier au grand cœur. Et finalement, tout ça fait un peu très politiquement correct, je trouve.
Un peu trop même.
Pire qu'arabesque. Par contre, il y a une chose qui est originale dans Julie Lescaut, c'est qu'elle est issue d'un roman. Donc Julie Lescaut est un roman paru au Masque en 1992, écrit par Alexis Lecaille. L'auteur aime en fait l'idée d'un détective un peu plus original que la moyenne. Par exemple, son héros précédent à Julie Lescaut, c'était un croque-mort qui menait les enquêtes. Il avait envie de voir pourquoi il enterrait les gens, probablement qu'il enterrait. S'il n'a pas écrit un deuxième roman, Julie Lescaut, c'est par manque de temps et pour cause, puisque puisque Julie a été adaptée à la télévision. C'est pas d'ailleurs la première fois que lui devient scénariste pour la télévision. Il a auparavant participé à Deux flics à Belleville ou à la saga des Sapajous, pour ceux qui se souviennent. Mais bon, c'est très loin. Julie Lescaut reviendra ensuite au roman, puisqu'il y a plusieurs novélisations qui ont été tirées de la série. Donc une novélisation, c'est un roman adapté d'un film ou d'une série télé. Les amateurs de Buffy contre les vampires, par exemple, dévorent probablement les bouquins Buffy contre les vampires. Là, ce sont deux épisodes qui ont été adaptés, Charité bien ordonnée et Table noire. Les épisodes sont retranscrits quasiment tels quels, donc c'est pas vraiment une œuvre très créative non plus. Il existe parfois des novélisations où on réécrit des épisodes qui n'ont jamais eu lieu dans la série. Et c'est le cas, je pense, de Buffy contre les vampires, ou de Charmed, ou de Stargate, etc. Ici, c'est Christine Hanneau qui reprend exactement les épisodes. J'ai lu, moi, par exemple, Charité bien ordonnée.
Et qu'est-ce que ça donne ?
Eh bien, c'est très intéressant, parce qu'on accède, par exemple, à la pensée de Julie Lescaut, tu vois, ce qu'on ne peut pas faire dans la série. On ne peut pas rentrer dans son cerveau, à moins d'être dans une série de science-fiction, mais je ne pense pas que ce soit le cas de Julie Lescaut.
Ça ne semble pas, en tout cas.
Donc on a droit à ses doutes, à ses craintes, à ses réflexions sur l'enquête, etc. Il faut savoir
Julie
que...
Julie Lescaut doute.
Oui,
ça, c'est
oui.
C'est une grande première.
Julie Lescaut doute, d'autant qu'il faut quand même savoir que dans Charité bien ordonnée, elle a été kidnappée. Donc bon, c'est aussi une situation un peu particulière. Et elle tombe peu à peu amoureuse de son kidnappeur. Et oui. Et donc elle a des doutes. Est-il ou non le meurtrier de sa femme ? Est-ce qu'elle n'est pas en train de devenir trop proche de lui pour pouvoir mener l'enquête, etc. Mais on a aussi des choses beaucoup moins intéressantes dans les doutes, parce que Julie devient une femme, je l'ai dit, elle tombe amoureuse de lui, donc elle devient une femme plutôt comme on en trouve dans les poches anti-moto, par exemple. Et on a donc parfois des détails féminins assez futiles. Par exemple, page 35, je l'aime beaucoup celui-là, on accède à sa pensée, elle se dit « Avait-elle bien mis sa pilule contraceptive dans son sac ?» Je pense que c'est quand même une interrogation fondamentale quand
oui,
on est Julie Lescaut.
Est kidnappé, c'est quelque chose qui est forcément nécessaire de savoir.
Je trouve, donc Julie dans les romans devient, alors que dans la série finalement elle est quelqu'un de très dynamique, elle mène les hommes à la baguette, elle est toujours celle qui relance les enquêtes, etc. Là, dans le roman, elle devient une femme au niveau basique du terme, puisqu'elle pense à ses banilons, à ses chaussures avant tout le reste. Ceci dit, et je voudrais pas jeter une pierre dans l'étang, les novélisations peuvent être très intéressantes. Ici, je rigole un peu, mais c'est vrai que parfois on peut avoir droit à des choses très intéressantes, notamment par l'ajout de la pensée. Dans les novélisations de Charm, par exemple, on accède à parfois des pensées des sœurs qui sont assez intéressantes. Et on a parfois des choses qui sont tout à fait décalées par rapport à la série. Je pense au journal de Laura Palmer, par exemple, pour Twin Peaks. Donc je pense que les novélisations peuvent être bien. Celles-ci ne sont pas top. Enfin bref.
On passera donc.
Oui.
Et on ira voir ailleurs.
Donc lisez, si vous avez rien d'autre à faire, ça peut être intéressant.
Donc toi, tu conseilles plutôt de regarder un épisode de Julie Lescaut que de lire une de ses novélisations.
Ou de regarder un épisode de Twin Peaks.
Plutôt que de regarder Julie Lescaut.
Voilà.
Ça, je comprends très bien.
Oh, écoute, Paul, essaye de comprendre. De toute façon, il est hors de question que je retire mes filles du lycée. Non, mais tu te rends compte le mouvement de panique que ça pourrait déclencher?
Toi, tu fais ton métier, tu sais ce que j'en pense. C'est ton problème. Et pour mes filles, je veux pas qu'elles soient sacrifiées.
Sacrifiées? Oh non, non. Non, mais t'es fou, hein. Mais où t'as vu que je voulais sacrifier moi ou mes filles? Enfin, je sacrifie personne, tu les as entendues.
On peut pas parler. On s'emballe. Tu peux comprendre que je sois inquiet. Je veux pas qu'il leur arrive quelque chose, c'est tout. Tiens, je vais aller au bout. Faut que j'y aille.
Tu veux pas un café?
Non, non, je dois être au palais à 8h demain matin. Alors, c'est promis, si jamais ça empire...
Oui. Essaye de venir nous voir plus souvent. Tes filles adorent quand t'es là.
Tu parles, elles font se regarder la télé.
Oui. Mais ça leur prouve au moins que, même si tu le vois que le week-end, elles comptent à plein temps pour toi.
Le policier est une histoire d'amour avec la télévision française.
Je crois qu'on peut le dire.
On peut le dire. Dès les années 50, donc les tout au début, les premières dramatiques, et ça c'est Jacques Baudou et Jean-Jacques Schleret qui nous le disent dans leur bouquin « Meurtre en série », les premières dramatiques sont policières, ainsi que les tout premiers feuilletons. L'agence Nostradamus, en 1950, c'est le premier feuilleton de la télévision française. Comme ça, vous pourrez le noter dans votre encyclopédie personnelle. Dès ces moments-là, dès les années 50, on retrouve beaucoup, beaucoup de policiers, et notamment des choses qui sont devenues maintenant carrément cultes, comme les 5 dernières minutes de Claude Lourcet, en 1958, qui, au début, oscillait entre jeux, puisqu'il y avait deux candidats qui devaient trouver la solution de l'énigme, et fiction, puisque des comédiens jouaient une intrigue policière en direct, soit dit en passant, puisque le magnétoscope n'avait pas encore été inventé à l'époque. C'est 1960, je pense, le magnétoscope. Au début des années 60, on voit apparaître les premiers feuilletons découpés en tranches de 13 ou 26 minutes qui sont diffusés avant ou après les journaux télévisés. Et là encore, beaucoup de policiers, parfois des adaptations de romans comme Rocambole, L'abonné de la ligne U, Belphégor, Les compagnons de Bâle. Le policier télévisuel puise dans le policier du début de siècle, dans le roman policier. Alors on parle de romans, évidemment, la télévision française a vécu une relation assez unique avec la littérature policière et ses grands personnages. On commence par un trio. Arsène Lupin, le gentleman cambrioleur qui a été créé par Maurice Leblanc en littérature, Rouletabille, le journaliste détective amateur qui a été créé par Gaston Leroux, et Fantomas, créé par le maître de l'épouvante, Marcel Alain et Pierre Souvestre. Ces trois héros-là sont les premiers à passer au petit écran, mais il y en aura plein d'autres. Il y aura Vidocq, il y aura Maigret, il y aura Nestor Burma, etc., de la littérature. Sous Valéry Giscard d'Estaing, l'ORTF vit une réforme et on voit en 1975 la première chaîne qui devient TF1, la deuxième chaîne devient Antenne 2 et la troisième France 3, France Région 3 en fait, qui dit nouvelle chaîne dit nouveau héros, d'autant que Starsky Hutch débarque des États-Unis et rendent les policiers français un peu obsolètes.
Disons qu'ils sont un peu plus énergiques.
Ça c'est carrément clair. Et donc la directrice de TF1, Jacqueline Baudrier, demande au réalisateur Claude Boissol d'étudier l'idée d'un nouveau flic et il verra le jour grâce à Commissaire Moulin, dans les années 76. Il est jeune, ses méthodes d'investigation sont modernes, et au fil des épisodes, l'acteur qu'il incarne va le relooker pour adopter les cheveux longs, le jeans et le blouson. Donc ça fait très Starsky Hutch, évidemment. Les années 80 sont celles des collections, par exemple l'heure Simenon, le masque aux sueurs froides. Dans les années 90, le policier a ses soirées thématiques, le jeudi sur TF1, le dimanche sur Antenne 2, le vendredi sur France 3 et la 5, et le samedi sur M6. Et c'est encore le cas actuellement. Aujourd'hui, le policier rassemble des foules. Toujours, vous avez vu les chiffres d'audience de Julie Lescaut tout à l'heure, 10 millions de téléspectateurs par épisode, c'est pas rien. Et connaît toujours ses soirées spéciales, la soirée de Polar, par exemple, sur France 2, le vendredi. Mais il me semble que dans les années 90, il y a deux directions que le policier prend et qui sont intéressantes. D'abord, les flics sont devenus féminins, avec par exemple Julie Lescaut, mais aussi une femme d'honneur, Héloïse Rome ou femme de loi. Et aussi, le policier a intégré des équipes, comme PJ, Brigade ou la Crime. Et enfin, les flics sont aussi devenus faillibles, ripoux, très violents, voire parfois condamnables. Et là, évidemment, tout le monde pense à Police District. Face finalement au loup de cette série Police District, Julie Lescaut a l'air probablement d'une collégienne. Mais le policier, à mon avis, a encore de belles heures devant lui. Et peut-être que Babou deviendra une flic trash dans les années 2010.
Bon, monsieur le gars, vous êtes en garde à vue officiellement. Et on va commencer votre interrogatoire. Alors ça, j'aimerais savoir si vous ne voulez vraiment pas un avocat.
Non, j'ai rien à me reprocher, j'ai envie que ça aille vite, et surtout d'avoir retrouvé mon lit.
T'étais pas si pressé de le retrouver avant-hier soir,
puisque t'es pas rentré chez toi. Après la fermeture, je suis allé retrouver des potes en soirée, on a enchaîné en after, chez une copine, j'ai dormi chez elle. Il est où le problème?
Le problème, c'est qu'on a retrouvé votre ADN sur le corps de la femme qui a été assassinée au 42.
Bah ouais, évidemment. J'étais sûr que ça allait me retomber sur la gueule, cette histoire.
Elle reconnaît que c'est ennuyeux.
J'avais dit à Béa que ça craignait pour moi de coucher avec une cliente. Parce que je peux me faire virer pour ça. Mais bon, elle était tellement chaude. J'ai craqué. Mais je vous jure, je m'ai fait aucun mal.
Vous pouvez nous donner des détails?
Bon, on a fait ça vite fait dans des box des chiottes. Après, je suis retourné au bar pour lui laisser temps de se refaire une beauté. Et quand je l'ai quittée, elle est très bien, je vous jure. D'ailleurs, il y a un témoin qui pourrait vous le dire.
Ah oui?
Oui. J'ai croisé un mec au lavabo des toilettes. Il a bien vu que Béa était vivante. Je l'ai même vu sourire quand il nous a vu sortir tous les deux des chiottes. Vous avez qu'à le retrouver, il vous le dira, lui.
Tu peux nous le décrire un peu, ce témoin providentiel?
C'est le type que le barman aurait vu.
Une vraie tronche de tueur.
Il se fout de nous.
Moi, oh, mets-le au frais. Bon, et on voit quand même le portrait robot au fuseau de mise au 42, si vous voyez passer un client avec ce genre de tronche. Hein.
T'y crois, toi?
Un détraqué qui irait faire ses courses là-bas, pourquoi pas?
Julie, Lou vient de se réveiller, je la sors de la cellule de dégrisement?
Ouais.
L'épisode 78 marque un tournant énorme dans la série. C'est Julie sans Sarah et sans Babou. En fait, avec Sarah, mais sans Babou. Et oui, parce qu'en fait, Julie Lescaut, à un moment, se transporte sur Paris. Et donc, exit l'ex-mari dont j'ai oublié le nom, exit les enfants, exit Mota, je ne sais plus. Elle se retrouve seule à Paris, à la tête d'un nouveau groupe d'enquêteurs de la criminelle. Avec Sarah, qui elle est devenue avocate.
Effectivement. Et Babou alors?
Et Babou, plus là. Plus personne. Et donc effectivement on se retrouve face à un épisode où on se dit ah c'est un peu bizarre. Vous allez me dire, si ça change juste au niveau de... On change Julie d'endroit, c'est pas très intéressant. Mais ce qui est intéressant, c'est que dans la forme également, ces nouveaux épisodes changent aussi la manière de filmer. C'est qu'on est face à une image plus moderne, voulue en tout cas plus moderne, face à une intrigue plus moderne et à une manière de la mener plus rapide, etc., etc.
Et est-ce que justement l'épisode est plus court, comme ils l'avaient promis, puisqu'ils avaient pensé passer au format 50 minutes ?
Eh ben non, justement, ça c'est le seul veto qui a été mis par Véronique Jeunesse sur le changement, c'est que ça ne devait pas passer en 52 minutes. Mais c'est vrai que la rumeur s'était répandue. La rumeur s'était répandue sur Internet. Elle a dit qu'en fait, si on faisait un 52 minutes, il faudrait tout focaliser sur l'intrigue policière et qu'on perdrait le côté vie personnelle d'elle, de ses nouveaux enquêteurs et de Sarah, et ce dont elle n'avait pas envie. À côté de ça, on passe d'épisodes dans lesquels il y avait 90 séquences à des épisodes dans lesquels il y en a 140. Donc il y a effectivement une narration plus rythmée.
En fait, elle a été intelligente, Véronique Jeunesse. Elle a au moins 2 jours de plus de tournage, donc ça gagne plus.
Probablement, mais je crois qu'elle est payée à l'épisode, tu sais, pas au jour de tournage. Enfin bref, donc on se retrouve face à des épisodes qui donc vont plus vite, ont plus d'ellipses, parce que partout sur Internet, la seule chose qu'on peut véritablement apprendre, sans regarder les épisodes si on veut en savoir un peu plus avant, c'est qu'il y a plus d'ellipses dans la narration. Et c'est vrai qu'avant c'était un peu du genre, on rigole toujours en disant il fallait qu'on voit Julie sortir de son bureau pour comprendre qu'elle était sortie de son bureau. Maintenant ils enlèvent tout ça et on est grand assez pour comprendre que si elle est sur les quais de la Seine, c'est probablement qu'elle est sortie par la porte. Et donc effectivement ça donne un côté un peu plus rythmé à toutes ces intrigues, en sachant aussi que le changement se fait de facto par le fait qu'on n'est plus avec ses partenaires habituels, et donc on a une nouvelle alchimie au sein de l'équipe. Elle est maintenant accompagnée de Roland, de Claire et de Gilles, qui sont plus jeunes en fait, et aussi plus citadins que Mota et les autres. Et donc effectivement, elle doit aussi réapprendre à diriger ces gens qui sont tout à fait nouveaux.
Oui, d'autant qu'en plus elle est plus toute jeune non plus.
Non, ça c'est évident. Mais ça ne se perçoit pas dans le contenu des épisodes. C'est-à-dire que j'ai l'impression que Julie Lescaut finalement a toujours eu le même âge quasiment. C'est vrai que ses filles grandissent.
C'est l'inspecteur d'Éric Français.
Voilà. Maintenant, l'actrice par contre, on voit qu'elle vieillit. Et le fait en fait de la retirer de son commissariat des clairières... Mais encore un peu plus le focus là-dessus, sur le décalage qu'il y a, je trouve, entre ses nouveaux partenaires et elle. Et je trouve, moi, personnellement, que c'est un peu compliqué. Maintenant, sur le fait du renouvellement des intrigues, de la rapidité, c'est pas mal joué, à mon avis. Il y a juste 2-3 choses qui me paraissent un peu factices. C'est la lumière bleue qui baigne. Alors maintenant, quand on veut faire série moderne, on met ça sur un filtre bleu. Ok.
Il y a Grissom qui arrive.
Ben presque. Oui, presque, parce qu'on ne cesse de vous parler d'indices matériels, etc. Donc bon, c'est du tout vu, quoi. Et alors, quand on change de séquence, on a un petit chou. Vous voyez ? Un petit effet sonore comme ça. Et je me dis, bon, maintenant, quand tu veux faire jeune, tu mets un petit effet sonore et tu mets tout en bleu et c'est bon. Ça marche pour à peu près tout, sauf pour Véronique Jeunesse. Bon, maintenant, on nous dit, tu vois, qu'il fallait un peu de renouveau et que ça s'est fait pour ça. C'est pas tout à fait vrai, parce que dans une interview qu'elle avait donnée à un magazine belge qui s'appelle Le Télémoustique, elle a quand même avoué que s'il changeait d'endroit, c'était pas parce qu'il avait décidé, mais tout simplement parce que l'endroit où il tournait devait être détruit. Donc, tant qu'à changer... Autant de changer un peu tout ce qu'il y avait autour, mais s'ils avaient pu continuer pendant encore 17 ans aux clairières, à mon avis, pendant 17 ans, on était toujours aux clairières. Je voulais simplement vous dire que pour ceux qui adorent Julie Lescaut comme elle est maintenant, de temps en temps, les anciens personnages viennent faire un petit coucou quand même.
Ah, il y a des caméos de Mota de temps en temps.
Je ne dis pas lequel, il faut regarder pour le voir.
Oh, mais ça, c'est embêtant, ça.
Bref.
Retrouvez Aux frontières des séries sur le web. www.afds.tv.